de ce cinéma. Vous trouvez ça normal?
C'était la fin du morceau.
Il n'y a pas que la musique. L'émission dans laquelle on parle un peu de musique et beaucoup de cinéma.
Je me méprise, le cinéma.
Écoutez, mon Dieu, ça suffit comme ça. Emmenez votre âme, se calmer ailleurs.
Sur Radio Esperanza.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Radio Esperanza pour parler cinéma pour cette dernière émission de Y a pas que la musique. Aujourd'hui, on va se plonger dans le film Sababou, un documentaire de Samir Benchik qui a été projeté hier au festival. Et malheureusement, Samir Benchik et Aga Thierry ne sont plus parmi nous au festival, donc ils ne sont pas en studio puisqu'ils sont partis du festival ce matin en direction de Paris. Et on les salue, ils étaient venus hier pour présenter leur film et répondre aux questions du public d'Esperanza. Et ils nous ont fait la gentillesse et l'honneur de nous parler de leur film Sababou, une interview réalisée hier soir dans les studios de Radio Esperanza, un entretien au long cours et qu'on va pouvoir écouter sans interruption pour le plaisir de parler cinéma.
Il n'y a pas que la musique.
Samir Benchik et Aga Thierry, merci d'être avec nous. Vous êtes donc respectivement le réalisateur et l'assistante réalisateur de Sababou. Alors au-delà des titres un peu officiels, peut-être que vous pouvez nous dire quels ont été vos rôles précis sur le film et comment s'est passée votre collaboration. Samir Benchik.
Déjà bonjour de nous recevoir pour cette émission radio. Donc nos rôles, ça a été, on a assumé quasiment tous les rôles de la préparation technique, de la réalisation d'un tournage, de la post-production, de la production d'un film, parce qu'on a eu assez peu de moyens pour le faire. On était tous les deux avec notre volonté, mais bon, en même temps, ça a été une chance exceptionnelle d'avoir la liberté de faire ce qu'on voulait. Donc j'étais à la caméra, elle était à la perche, on gérait l'organisation du tournage, on a préparé le montage ensemble, on a géré toute la logistique ensemble, c'était vraiment... On était une équipe de deux, on a deux amis qui nous aidaient un petit peu aussi en Côte d'Ivoire parfois pour un ami à moi, caméraman, qui parfois m'aidait pour des plans dans la rue, parce que parfois c'était un peu compliqué en tant que blanc de filmer, parce que tous les regards se portaient vers moi, il n'y avait aucune agressivité, mais les gens étaient étonnés, donc du coup ça faisait des plans qui étaient pas très naturels, alors que lui ça passait et puis il était bon. Et on avait un autre ami qui nous aidait un petit peu parfois pour la perche, parce que c'est chiant la perche pendant 3 heures, donc voilà, ça s'est bien passé entre nous, même si évidemment sur un tournage il y a toujours des frictions, parce que il y a un enjeu qui est assez fort, celui de réaliser un film, un documentaire. Il n'y a pas d'échéance, il n'y a pas plutôt d'opportunité de refaire des scènes comme sur une fiction, donc on se doit d'être au top tout le temps. Donc voilà, parfois on se prend un peu la tête, mais bon.
Et ça veut dire que vous avez porté vraiment le film tous les deux, le tournage, le montage, c'est essentiellement vous qui avez fait le cadre, la perche et le montage.
Je vais te passer la parole, t'inquiète. Mais oui, c'est exactement ça. C'est en gros, on a eu l'idée à peu près ensemble, vouloir faire un film positif sur l'Afrique. On a discuté un petit peu. Donc il y a un dossier qui a été écrit. On a demandé des subventions parce que moi j'ai une société de production, on n'en a pas eu, mais on s'est dit on va quand même faire le film avec les moyens du bord. Et ce problème financier s'est transformé en chance parce que finalement on avait de compte à rendre à personne, donc on a pu rester autant de temps qu'on voulait en tournage, filmer exactement ce qu'on voulait. Et donc voilà, du coup ça nous a forcé à assumer tous les rôles, quoi. Après, donc pour le tournage, pour la post-production, donc on a emprunté des ordinateurs à droite à gauche, donc moi j'assurais techniquement le montage, mais on était ensemble à faire les choix et à essayer d'être le plus critique possible par rapport à ce qu'on faisait. Il y a quand même eu à la fin de la post-production On a des limites au bout d'un moment, parce qu'au niveau du fond, on a vécu le tournage, donc on est plus très lucide sur ce que peuvent comprendre des spectateurs qui n'ont pas vécu la même expérience. Donc voilà, je me suis dit, ce serait bien de s'orienter vers des personnes qui pourront nous aider à bonifier le film. Et il me fallait aussi, d'un point de vue technique, des gens pour faire le mixage audio, pour faire l'étalonnage. Donc du coup, j'ai rencontré un studio de post-production, Saya Production, qui a bien voulu être partenaire du film et donc a participé au montage audio, au mixage audio, à l'étalonnage, pour que le film soit techniquement nickel à la fin, quoi.
Et tu dis que c'est une chance, une liberté de ne pas avoir eu de soutien, de subvention, parce que vous étiez libre. Mais du coup, comment on fait pour faire un film sans argent? Parce que du coup, vous n'avez pas été du tout payé sur ce film. Agathe Thierry?
C'est vrai qu'on n'a pas été payé au moment du film. On s'est débrouillé. On avait un peu d'argent de côté et puis... Comme on vivait très simplement avec les gens, donc on n'a pas dépensé énormément d'argent. On avait une caméra qu'on nous a prêtée. On a tout fait comme ça, quoi, sur le moment. Pendant plusieurs mois, ouais, mais pendant 6, 7, 8 mois, ça a duré. Donc c'est clair que ça demande quand même d'avoir un petit peu d'argent de côté, mais nous, on l'a fait comme ça. Bon, ça nous a posé énormément de problèmes parce que du coup, on a tout fait au bricolage. On nous a prêté du matériel à Abidjan. On n'avait pas d'ordinateur correct là-bas pour dérocher. On a rencontré des gens qui nous ont prêté un ordinateur, une boîte de prod locale. On s'est débrouillé avec tous les gens qu'on a rencontrés. En fait, on s'est créé. On a développé notre réseau. Voilà. Samir, il avait déjà un peu un réseau sur place. Et ça allait très vite parce que, quand on a besoin et quand on... Et c'est vrai que, aussi, quand on parlait du projet aux gens, ils avaient envie de nous aider, quoi, et de nous soutenir. Bon, il y en a qui ont... même les gens qui ont participé, qui sont dans le film, qu'on voit dans le film, ils ont été impliqués, quoi, dans le projet. Ils étaient vraiment... ils avaient envie de le faire, ils voulaient porter le film... comme nous, donc au final, c'était un travail d'équipe, même avec eux. C'était pas que nous, on gérait l'aspect organisationnel, technique, administratif, mais c'est vrai que moi, je l'ai vraiment vécu comme un projet collectif.
Alors, on va parler de la naissance du projet. Donc, le film dresse le portrait de quatre acteurs du changement en Côte d'Ivoire, deux musiciens et deux personnes plutôt du monde associatif. Donc, comment est née l'idée de faire ce film? Vous nous avez dit que l'idée était venue par vous deux, en fait, par des discussions. Mais voilà, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce film?
Alors, le point de départ, c'est un premier voyage que j'ai fait en 2006 en Côte d'Ivoire, qui a été l'occasion de me rendre compte de l'incroyable différence qu'il y avait entre la réalité locale et le traitement médiatique des questions africaines dans les médias en Europe en général. Donc il y avait beaucoup d'accent sur la malgouvernance, sur la misère, le sida, les choses comme ça. C'est des choses qui existent. Mais quand je suis allé sur place, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un vrai espoir et que c'était pas du tout une cause désespérée de croire en l'Afrique, quoi. Et donc ça m'a vraiment beaucoup étonné parce que je me considérais vraiment comme quelqu'un d'ouvert d'esprit, curieux. Et c'est vrai que je suis arrivé avec mes préjugés en 2006 et je me suis dit « Ah ouais, c'est vrai, les gens, ils se bougent, c'est vrai, il y a des intellectuels, c'est vrai, tout ça. » Et je me suis dit, le simple fait de m'étonner de ça, je me suis dit « Il y a vraiment un gouffre entre moi, qui suis d'origine africaine, et le continent. » Et je me suis dit « Qu'est-ce que ça peut être pour quelqu'un qui ne s'y intéresse pas de base, quoi ?» Et donc je me suis dit « Voilà, j'ai fait un film en 2006 qui s'appelle Côte d'Ivoire, journal intime. » Donc c'était « Je retraçais mon voyage en Côte d'Ivoire. » Et je me suis dit, après avoir monté une asso et créé des projets qui n'ont pas très bien marché, je me suis dit, la meilleure chose à faire, c'est de valoriser ce qui existe déjà à travers l'image et de parler d'une Afrique positive telle qu'elle existe. Donc ça, c'était le point de départ de l'idée de faire le film. Et après, pour le sujet en lui-même, c'est des histoires d'opinion personnelle. C'est-à-dire que pour moi, une société, elle doit fonctionner sur l'éducation, la justice et la culture et l'insertion professionnelle, l'emploi, pour fonctionner. Donc je voulais traiter ces quatre sujets. L'insertion professionnelle, on l'a pas traité parce que il y avait pas assez de place dans le film pour mettre. Toi, t'as vu le film, on rajoute un cinquième personnage, le film après il fait 4 heures. Mais donc il y avait cette idée là, et on voulait aussi une quatrième personne qui porte dans le débat public les réalités des anonymes. Et parce que c'est vraiment un problème qui est très important là-bas. Et c'est un problème dont on ne parle pas trop, paradoxalement. C'est que c'est très difficile pour la société civile de s'exprimer dans les médias, d'avoir une place dans le débat, quoi. Et donc, je me suis dit, voilà, on va proposer à quelqu'un de connu de participer au film, de le suivre à travers son engagement. Et donc, j'ai pensé à Tikenja et je l'ai rencontré, je lui ai expliqué le projet. Et donc, il a été tout de suite enchanté par l'idée d'y participer, surtout que ce n'était pas que sur lui, il y avait aussi d'autres personnes. Donc, il m'a dit ce qu'il avait prévu de faire dans les prochains mois quand je l'ai rencontré. Et donc, ça a donné ce projet donc, en Guinée. Et voilà, si tu veux en rajouter.
Je voulais juste revenir sur ce que tu as dit, ce qui me semble intéressant sur le rôle du cinéma, et notamment du cinéma engagé, sur ce que le cinéma peut apporter à l'Afrique. C'est-à-dire que toi, tu as essayé de monter des projets avant en Côte d'Ivoire et finalement tu t'y es pas retrouvé et à un moment tu as pensé que l'image et le documentaire pouvaient jouer un rôle que d'autres projets associatifs pouvaient pas jouer, c'est ça?
En fait, je sais pas si les projets associatifs ne peuvent pas jouer ce rôle-là, mais dans mon cas personnel, on avait une association pour aider, pour monter une école des enfants de la rue. Et je me suis rendu compte que c'était très naïf déjà de ma part de faire ça, parce que ça demande, au-delà de l'argent qu'on pouvait trouver, des connaissances sur les réalités locales, sur les mœurs, les coutumes. On peut passer un an dans un pays, mais c'est très dur de savoir comment les gens votent, comment les gens décident, comment les gens s'organisent entre eux, sans connaître vraiment la réalité des coutumes, quoi. Mais ça vaut pour tous les pays du monde. Et donc, je me suis dit, voilà, ce projet n'avait pas de sens. Et puis surtout, c'est un projet qui pouvait exister un petit temps, mais le pérenniser demandait aussi des fonds, des équipes qu'on n'avait pas. Donc je me suis dit, en plus, j'avais l'impression de prendre la place de quelqu'un. J'ai eu une mauvaise conscience à me dire, soit on fait un projet interculturel où le fait d'être étranger apporte quelque chose, c'est-à-dire on échange sur nos pratiques innovantes d'éducation populaire et on essaie de créer des projets nouveaux. Mais là, c'était remplacer quelqu'un. Quelqu'un aurait pu le faire. Et donc je me suis dit, le mieux à faire pour moi, c'est de valoriser ce qui existe déjà. Et ça a été comme ça que l'idée de ce film est venue, quoi.
Et donc tu disais que tu avais proposé le projet à Tikenja. Donc il y a quatre personnages dans le film. Comment vous avez trouvé ces quatre personnages? Tikenja, donc parce qu'il a une force de frappe médiatique, qu'il est connu et engagé. Et, c'est le premier à qui vous avez proposé le projet ou les autres sont venus à quel moment? Agathe Thierry.
Je pense que dans la logique de ce que vient de dire Samir, c'est vrai que Tikenja, il est apparu assez rapidement comme complètement dans son discours et dans les valeurs qu'il défend, que ça collait avec cette idée-là que Samir avait du film. Puisque lui, ce qu'il défend, c'est que les Africains s'en sortiront pas s'ils construisent pas eux-mêmes leur société civile, s'ils défendent pas eux-mêmes leurs droits, s'ils vont pas construire leur propre démocratie, etc. Donc je crois que c'est comme ça que ça a commencé. C'est vrai que nous, on l'a construit comme ça. Et puis les autres personnes, on les a rencontrées sur place. Bon, on avait déjà eu des contacts avant par mail et puis il y avait un réseau associatif et tout par lequel on est passé. Et puis quand on est arrivé sur place, on a passé peut-être un mois et demi, selon les thèmes, parfois plus, à passer beaucoup de temps avec les associations, avec des gens. C'était un repérage, quoi, en fait. C'était un repérage. C'était aussi une question de convaincre les gens de nos intentions, parce que il y avait des gens qui étaient réticents, qui avaient un petit peu peur qu'on détourne leurs propos, qu'on détourne les choses. Voilà, c'est normal, hein. Nous aussi, on devait les convaincre de ça. Et puis, on cherchait vraiment des gens qui correspondaient à ce qu'on voulait montrer, des gens engagés. Aussi, c'était une question aussi de personnalité, d'énergie et puis de moment, parce qu'il fallait qu'à ce moment-là, il y ait des projets, des choses qui se passent et que nous, on puisse voir, quoi. Donc tout ça, ça a pris un petit peu de temps. Les choses, elles se sont faites progressivement.
Et en voyant le film, alors on se demande comment s'est déroulé le tournage. Ça décrit quand même une situation assez alarmante en Côte d'Ivoire. Par exemple, vous suivez Michel Yao, qui est membre de la Ligue des droits de l'homme, qui fait de l'assistance juridique auprès de prisonniers à la maison d'arrêt d'Abidjan. Et on se demande comment on peut filmer à l'intérieur de la maison d'arrêt alors que la situation qui est décrite, c'est des prisonniers qui sont détenus arbitrairement pendant des années sans connaître de jugement. Et à un moment, on se demande comment c'est possible que les autorités, la maison d'arrêt, laissent un réalisateur filmer ça alors que ce qui est montré est totalement abject et dictatorial.
Filmer en prison, ça a été un pari, hein, vraiment, parce que, en gros, quand on a commencé à travailler avec Michel, on avait rencontré d'autres personnes dans le milieu de la justice, et quand lui nous a parlé de ce projet-là, on s'est tout de suite dit, pour un film dans lequel il apparaîtra 25 minutes, c'est un contexte assez fort pour qu'on puisse comprendre son engagement, et parce qu'on aurait pu traiter d'autres sujets. Mais là, voilà, quand vous faites un film, la prison, l'arbitraire, pas besoin d'en dire plus pour comprendre que c'est important. Et donc on a vraiment voulu le faire. Michel n'y croyait pas au début qu'on pourrait filmer en prison. Donc la démarche, elle a été simple. On va au ministère de l'Intérieur ou de la Justice, il y a un administrateur de pénitentiaire. Et donc voilà, je lui ai proposé, je lui ai dit ce que je voulais faire. Et je lui ai dit que je m'engageais à pas montrer la misère vraiment de la cellule, mais montrer ces interactions entre Michel, son association et les prisonniers, et de voir quelles sont la situation des prisonniers, quel espoir ils ont, et comment Michel peut faire quelque chose. Et donc, il m'a réservé sa réponse. Moi, j'ai vraiment insisté. Et quelques jours plus tard, il m'a dit OK. Et il m'a expliqué que voilà, ils étaient à une période, c'était avant le conflit en Côte d'Ivoire, où il y avait plusieurs médias qui étaient en Côte d'Ivoire avant les élections, et que il y avait une politique de répondre oui à quasiment toutes les demandes des journalistes, quoi. Bon, moi, j'étais pas journaliste, mais il y avait l'idée que dire non à quelque chose, ça voudrait dire que tu caches quelque chose. Et ça a été un peu une chance, quand même. Et alors moi, je l'ai aussi un petit peu joué comme ça. C'est-à-dire que on fait un film, avec ou sans vous, on fera le film de toute façon. Bon, sans vous, on le fera pas en prison. Mais je lui ai dit, voilà, ce serait vraiment dommage de ne pas pouvoir parler de ça, surtout que si vous faites l'effort de nous ouvrir les portes de la prison pour montrer ça, vous allez être valorisé parce que vous montrez que des associations de droits de l'homme rentrent dans la prison. Donc il y a un effort qui est fait. Donc après, tout ça, c'est de la négociation entre moi et ce type. Mais en fait, il était complètement sur la même longueur d'onde. Il était vraiment très motivé à l'idée de pouvoir montrer ce qui ne va pas pour améliorer les choses. Parce que lui, en tant qu'administrateur pénitentiaire, ce n'était pas un politicien. C'était un fonctionnaire qui était vraiment calé sur les questions pénitentiaire et qui était victime du peu de moyens que lui donnait l'État. Et donc lui, il était assez motivé. Et j'ai eu de la chance à ce niveau-là, parce qu'il y a des choses parfois qui ne marchent pas. Là où il y a eu des petits problèmes, c'était que lui m'a donné un papier, donc, mais une fois que vous rentrez dans la prison avec le matériel, il y a les militaires, les policiers, ils ne vous laissent pas rentrer avec le matériel, donc il fallait rappeler l'administrateur, qui renvoie une lettre, un fax pour que tout le monde ait dans les mains. Et puis après, il y a eu le problème des prisonniers qui se fassent filmer, parce que c'était quand même des gens qui donnent leur image dans un contexte qui est terrible. Et
ils ont accepté facilement d'être filmés ou il y a eu quand même des réticences parce qu'effectivement ils sont dans un contexte compliqué, certains sont coupables, d'autres sont innocents, mais tous sont détenus dans des conditions difficiles. Ils ont compris le projet rapidement, ils ont dit oui tout de suite ou ça a été aussi une négociation, une argumentation?
Alors ils ont dit oui tout de suite, tous. Après, il faut imaginer aussi que ils avaient le choix, complètement le choix. Moi, de toute façon, j'étais pas en position d'imposer quoi que ce soit à un prisonnier quand tu débarques en prison. Mais il faut imaginer aussi que au-delà de la caméra, ils avaient la Ligue ivoirienne des droits de l'homme en face d'eux pour les aider. Et donc pour eux, j'accompagnais la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, donc c'était utile. Donc j'ai pas eu moi besoin de faire beaucoup de médiation. C'était Michel qui expliquait à chaque fois. On filme parce que il va y avoir un documentaire sur la société civile, comment elle bouge, il y a une partie sur la justice, donc si vous voulez être filmé, tant mieux, si vous voulez pas, il n'y a aucun problème, on fera quand même... Alors après, vous pouvez toujours penser que peut-être il y en a qui se disaient, ah, si je suis pas filmé, du coup, il traitera pas mon dossier, ou j'en sais rien, mais il a été très clair, Michel, sur ça, en disant, il n'y a aucun problème avec personne, et donc, voilà, ils ont été assez motivés à parler, quoi.
Alors pour comprendre comment c'est construit un peu le film, la narration du film, il y a quelque chose que je trouve très joli dans le film, c'est au début, c'est une sorte d'esthétique du dévoilement, où Tikkun Jah Fakoly apparaît progressivement. C'est-à-dire au tout début, on le voit dans un concert et on le voit de manière fugace derrière des spectateurs du concert. Ensuite, on le retrouve en studio où il enregistre une chanson et il apparaît que assez tardivement, on voit des fragments de son corps, de dos, c'est très très joli. Mais alors, du coup, je me demandais, ça c'est ça se construit au montage ou c'est anticipé, pensé dès l'écriture et dès le tournage, vous savez que le film va commencer comme ça et donc vous filmez en conséquence.
Alors, je suis très 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 content que tu me fasses la remarque parce que j'aime beaucoup cette scène. Ça se fait au montage. Ça, parce que pour le coup, ce qu'on a construit au tournage et avant le tournage, c'est. Donc, on avait les projets de chacun des personnages, on avait leur emploi du temps pour les prochains mois et on savait ce qu'on allait filmer dans le cadre du projet. Donc, comprendre quel est le projet, les stratégies, l'évolution, la résolution, tout ça. Bon, après, il se trouve qu'au montage, vous avez parfois. Matière à faire une scène. Parfois, vous n'avez pas matière à faire une scène parce que parfois c'est mal filmé, il y a des problèmes de son, tout ça et tout. Donc, vous voulez vraiment la scène, donc vous essayez de trouver un moyen de la rendre intéressante. Il se trouve que la scène de Tikenja en studio, en elle-même, ça n'aurait dû être qu'une scène en studio où on le voit juste prononcer des paroles. Mais j'aimais bien l'idée du personnage que moi j'avais découvert, qui était quelqu'un de, même s'il est ultra médiatique, qui était quelqu'un d'assez. Comment dire, d'assez réservé, d'assez mutique, à part quand il est en public, et quelqu'un qui exprime assez peu de choses sur ses émotions, ses sentiments. Il est vraiment dans le concret. Et donc j'aimais bien l'idée que, notamment pour les gens qui ne le connaissent pas, qu'on puisse le découvrir presque timidement. Parce que c'est quelqu'un qui est assez réservé. Et donc, quand j'ai commencé à monter cette scène-là, c'est un peu la magie du montage, quoi, parce que j'avais pas l'idée de cette scène-là, mais j'avais aussi une scène où on le voit à une représentation en public d'un fan club, où lui était juste là pour assister, et il y avait du monde devant lui. Et je me suis dit, tiens, je vais mélanger ces scènes-là pour montrer ce personnage qui ne parle pas trop en public, mais en studio, il dit des choses très fortes, et on va découvrir son visage. Et puis après, c'est la magie du montage, vous essayez des trucs, ça marche. La scène finale, c'est un peu construite comme ça aussi, quoi. Il y a des scènes qui vous prennent une semaine, et puis il y a des scènes qui vous prennent une heure, quoi. La scène finale a été assez rapide à monter, parce que déjà, j'ai eu la chance d'avoir une bonne musique, donc ça donnait le rythme. Donc voilà, c'était pas trop réfléchi comme ça. Le sens, on l'avait, mais comment le mettre en image? Donc ça s'est fait comme ça, je suis content que ça t'ait plu.
On va parler de la musique justement, puisque c'est aussi un film musical. Alors à quel moment est venue la musique dans le film, est intervenue la musique? Parce qu'il y a deux personnages qui sont des musiciens. Le titre du film est en fait le titre d'une chanson de Diapson Terré. Donc il y a ces deux musiciens. Il y a aussi une musique originale qui a été composée, je crois. Donc, comment vous avez pensé cette musique?
Il y avait la chanson Sababou, c'était très important parce qu'elle exprime des choses. Donc c'était évident qu'elle serait dedans et puis ça c'était évident dès le début. Pour ce qui est des chansons de Tikenja, je savais que j'allais en mettre quelques-unes de temps à autre parce que par ces mots, ça exprimait vraiment la réalité du quotidien de l'Afrique. Donc ça même pendant le tournage, je savais que j'allais mettre des scènes de ce type-là. Après, moi je voulais une musique. Originale, qui soit pas une musique africaine, qui soit une musique vraiment dans ma tête, je sais pas pourquoi j'imaginais, je voyais ce film presque comme un western urbain. C'était des personnages qui ont des objectifs, où vous voyez des duels, des trucs comme ça, mais bon, c'est pas exactement ça qu'on voit. Mais j'avais dans la tête une musique avec un sifflement, une mélodie et de la guitare. Et je voulais quelque chose qui soit pas quelque chose d'attendu, quoi. Et je voulais aussi des mélodies qu'on puisse retenir. Et notamment au niveau du sifflement, c'est quelque chose qu'on peut répéter très facilement. Parfois, vous avez une mélodie à la guitare, vous la répétez à l'oral, mais ça sonne pas bien. Mais le sifflement, c'est quelque chose que vous pouvez faire bien potentiellement. Et donc, j'avais cette idée-là. Et donc, Agathe, elle m'a présenté un ami, elle, qui est musicien. Et je lui ai dit, voilà, j'ai quelques idées. Je veux une musique un peu type western. Voilà le sens du film, voilà quelques séquences. Et j'avais déjà commencé à monter, donc je lui ai dit, voilà, fais des propositions, et puis voilà. Et donc il a fait pas mal de propositions, il y en a que j'ai gardées. Parfois j'avais des petites idées, mais ça a été vraiment une relation très libre et très efficace parce que j'ai pas le vocabulaire de la musique, j'ai pas de mélodie en tête, mais je savais à peu près le style que je voulais. Et donc il a proposé beaucoup de choses et voilà, il y a une très belle musique dans le film grâce à lui, et ça a été une relation artistique qui a été vraiment idéale, quoi, vraiment.
Donc musique composée par un ami d'Agathe qui a un nom quand même qu'on peut citer.
Alors son nom d'artiste c'est Klaus P, et dans le civil c'est Léo, il s'appelle Léo. Et il a un Facebook, Klaus P, donc allez le voir, et c'est vraiment un excellent musicien.
On ira écouter ce qu'il fait. On a bien compris que vous avez fait ce film tous les deux, donc sans soutien, avec trois bouts de ficelle, de l'énergie et de l'espoir. Et quand on arrive au bout du film, comment on parvient à diffuser son film ? Parce que le film, quand même, est sorti en salle. Donc sans soutien, sans aide, sans comment on fait pour arriver à sortir un film en salle ?
Alors, une fois qu'on avait fini le montage, il y a eu une première version du film qui a été montée, qu'on a monté, et qui n'était pas encore aboutie, qui n'était pas diffusable, parce que comme on n'avait pas le recul, on ne savait pas ce qui était compréhensible par le public ou pas. Donc, quand même, on a sollicité des moyens. On a sollicité d'abord des partenaires techniques, où il n'y aurait pas de relations financières, mais il y aurait des échanges sur les bénéfices qu'il pourrait avoir sur le film, ou en tout cas des gens de bonne volonté qui pourraient nous aider. Donc on a fait, j'ai sollicité un studio de post-production qui a aidé au mixage, à l'étalonnage et à finir le montage. Comme je voulais le sortir au cinéma, le film, pour sortir un film au cinéma, il faut respecter des normes administratives et il faut donc avoir un agrément du CNC. Et pour ça, il faut payer les gens. Il faut respecter le droit du travail. Et comme il y avait quelques personnes qui nous avaient aidés, il fallait qu'on puisse les payer. Donc du coup, on a fait une collecte sur Touscoprod, qui est un site de...
Un site participatif de crowdfunding, ouais. C'est-à-dire qu'on peut financer des projets de films grâce au soutien des internautes. Et ce pari, il est réussi ou pas par rapport aux entrées en salle? Parce qu'effectivement, la diffusion du documentaire en salle, c'est difficile. Spécialement, comme tu l'as dit, un documentaire sur l'Afrique. Donc vous avez des bons échos, des chiffres des salles?
Alors, on a eu une bonne presse. Et pour ce qui est des entrées en salle, c'est... Pour un film comme le nôtre, les entrées en salle ont été faibles par rapport à d'autres. Mais on a l'ambition de pouvoir, en tout cas avec le distributeur, d'être rentable sur plusieurs mois. C'est un film comme le nôtre, c'est sur 12 ou 18 mois qu'on peut être rentable. Après, il y a d'autres choses, il y a les DVD, les télés, les choses comme ça. Ça, c'est le distributeur qui gère ça. Mais ouais, il faut imaginer que c'est difficile. Un documentaire, quel qu'il soit, c'est toujours des économies qui sont assez difficiles. Tout à l'heure, par exemple, je parlais avec le metteur en scène de Rude Boy Story. C'est voilà, les sorties de salles de documentaires, c'est je dirais que c'est presque plus pour l'image, pour la crédibilité, que c'est pas vraiment pour l'argent, parce que c'est pas là que vous gagnez vos sous, quoi.
Oui, on l'a reçu tout à l'heure en studio, Camille Meridja, donc le réalisateur de Rude Boy Story, qui a fait son film de manière un peu similaire à la vôtre, sans soutien, sans aide, et avec le groupe Dubbing. Ils ont carrément monté leur propre société de distribution pour pouvoir distribuer le film. Comme quoi, voilà, on peut faire des films quand on n'a pas le moyen, mais quand on a l'envie. Et pour continuer sur la diffusion du film en Afrique, puisque donc le film quand même porte sur nourrit l'espoir d'une nouvelle Afrique, d'une Afrique qui puisse changer. Est-ce qu'il a été vu en Afrique, Agathe?
Alors, quand on a fini le film, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on est allé à Abidjan pour le montrer aux gens qui ont participé au film, qui sont dedans. Donc ça a été, mais c'était une diffusion familiale, quoi, on va dire. C'était pas dans une salle de cinéma. Mais c'était déjà c'était la première chose qu'on a voulu faire. Après, ça a été aussi diffusé dans un festival au Burkina Faso avec certains des protagonistes, des personnages, Diabson Terré, Rosine Bengali qui était là, Martial Toa aussi. Et donc dans le cadre d'un festival qui s'appelle Ciné Droit Libre. Donc c'était extrêmement intéressant parce que c'était la rencontre d'acteurs de la société civile, mais de pays voisins qui avaient pas forcément, enfin qui se connaissaient pas, qui avaient pas forcément l'opportunité de se connaître et qui là se sont rencontrés et en plus vont certainement continuer à faire des projets ensemble parce qu'il devrait y avoir un ciné droit libre aussi en Côte d'Ivoire. Donc voilà, et puis il y a encore des festivals qui sont prévus dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, on est allé aussi en Éthiopie et ça devrait être au Sénégal. Mais c'est vrai qu'on l'a diffusé aussi en Éthiopie dans le cadre d'un festival aussi. Donc on essayait vraiment de le diffuser là-bas. Après, c'est vrai que bon, en termes de distribution, c'est très compliqué les cinémas en Afrique parce qu'il n'y a pas de circuit réel de distribution. À Abidjan, les salles de cinéma sont très vétustes. Enfin, c'est quand même assez compliqué. Mais en tout cas des événements, notamment des festivals et tout ça, qui peuvent permettre de faire des projections dans des très bonnes conditions. Donc c'est ça qu'on essaye de faire et c'est ça qui s'est fait et qui va se faire encore.
Merci d'avoir passé ce moment avec nous, Samir Benchik et Agathe Thierry. Puis on vous souhaite bonne chance pour la diffusion de Sababou. C'était un entretien avec le réalisateur et l'assistante réalisateur du film Sababou, donc projeté hier au festival, qu'on peut retrouver en salle, dans quelques salles encore en France, qui devrait sortir en Belgique dans quelques mois et qu'on pourra retrouver également en DVD dans quelques mois quand il sortira. Y a pas que la musique, c'est terminé pour aujourd'hui et c'est terminé pour cette édition 2013. Pour ma part, j'ai eu grand plaisir à rencontrer les réalisateurs des films qui sont venus en studio et à m'entretenir avec eux de leur réalisation. J'espère que vous aurez également apprécié. Je remercie les gars avec qui j'ai passé ces émissions. Sylvain, le premier jour, et notre cher Pascal hier et aujourd'hui. Merci Pascal, je vous souhaite une bonne fin de festival et j'espère vous retrouver peut-être l'année prochaine pour continuer à parler de la programmation cinéma du festival Esperanza. On va se retrouver dans quelques instants avec Rokia Traoré qui nous a accordé un entretien cet après-midi dans les loges. Et avant, on se quitte en musique en écoutant Rokia Traoré, Kuma.
Il n'y a pas que la musique. C'est fini.